Bon matin à tout le monde. Je vais vous demander de faire quelque chose avant que je commence, parce que ça fait déjà une trentaine de minutes qu'on est assis. Fait que je vais demander à tout le monde, s'il vous plaît, 100% de participation. Vous allez vous lever puis faire une pirouette au complet avant de se rasseoir. C'est bon? Tout le monde ensemble, on se lève, on fait une pirouette. C'est bon? Et on se rasseoir. J'espère que tout le monde a bien fait ça. C'est bon. J'ai déjà lu un livre. L'auteur, il a écrit comme une centaine de pages. Puis c'est la seule chose que j'ai retenue de son livre, là. Tu fais une pirouette puis change de perspective là, automatiquement. Là. Fait que j'espère que ça vous a. En tout cas, ça vous amène un peu. Là, ça change un peu le sang qui coule là, différemment dans le cerveau. Là. Fait que. Donc, je vais partager mon écran et je vais poursuivre avec une petite étude. En fait, c'est un peu la suite, ou c'est certainement connecté avec ce que Teresa a partagé en janvier. Teresa et moi, on a eu une occasion à l'automne. Tout le monde m'entend bien, là, oui, c'est bon? C'est bon. On a eu une opportunité de faire une visite en Turquie, ce qui était Asie mineure dans le temps de Paul. Donc, on a visité les sept églises dont Jean a écrit une lettre à ces sept églises dans les Apocalypse, les premiers chapitres de l'Apocalypse. Fait qu'on a visité les sites de ces sept églises. Et la raison de notre visite, c'était avec l'organisation Jeunesse pour Christ, on était une cinquantaine de staff, de personnes dans cette visite. Puis vraiment, l'idée, c'était d'explorer et comprendre l'Église. Si je peux dire l'église avant les bâtiments, parce qu'au début, il n'y avait pas de bâtiments. Là. Donc, nous, on dit, on vient à l'église. En fait, ce matin, on vient à l'église, mais Valentine est dans son salon, Teresa est dans le salon, en tout cas, mais on vient à l'église. Donc, en fait, même, c'est peut-être même pertinent de ce message dans le contexte de ce matin. C'est quoi l'église ce matin? Est-ce qu'on est à l'église si on n'est pas dans un bâtiment? En fait, ce qu'on a découvert, c'est quand Paul parlait aux anciens de l'Église quand ils visitaient les églises. En fait, ils visitaient pas des bâtiments, mais ils visitaient des gens, des regroupements, des gens dans les maisons, dans les foyers. Donc, c'est un peu ça. On étudiait là, vraiment, mais comment est-ce qu'il a fait les disciples? C'était quoi ses actions, ses formations? Comment est-ce qu'il a fait cette idée qu'on dit faire des disciples? Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais aussitôt qu'on dit on va faire les disciples, on a peut-être l'idée que ça ressemble à ça, là, comment Jésus, qu'on pense à Jésus, comment peut-être c'est comme ça que Jésus formait les disciples. Là. Je ne sais pas si vous voyez sur l'écran cette idée de formation des disciples. On est assis dans une classe, les bureaux, et même les disciples qu'on voit là sont en train de, en tout cas, un copier sur l'autre. Mais une chose qui est peut-être pas vraie avec en fait, plusieurs choses qui sont pas vraies. C'est pas une vraie photo de Jésus qui enseigne les disciples, on s'entend. Mais peut-être des fois on voit ça comment Jésus enseignait les disciples. Mais c'est les disciples probablement, et on voit qu'il y en a plusieurs qui sont, on dirait qu'ils sont plus âgés, là. Mais quand on pense aux disciples, là, les disciples que Jésus rencontrait, enseignait, invitait de suivre, là, c'était probablement des jeunes de 15 à 20, 22, 23, 24 ans. Là. Fait que c'était ce que nous, on appellerait des jeunes, des ados, des jeunes adultes. Donc, ce n'est pas des vieux. Là. Quand on parle de formation de disciples, c'est Jésus, c'était des jeunes qu'il avait avec lui. Donc, c'était peut-être pas comme ça que Jésus enseignait. Comment faire des disciples. Paul non plus n'avait pas ça comme méthodologie non plus. Par contre, ils ont étudié les Écritures ensemble, mais la formation des disciples, là, ça se faisait pas autour d'un bureau avec un crayon et du papier, là. Oh. Hello? OK. Donc, la semaine passée, ou pas la semaine passée, mais en janvier, Teresa elle a partagé cette idée de faire des disciples et comment l'idée que ce n'était pas si compliqué que ça. Donc, il y avait quatre éléments que Teresa. Je voulais juste réviser brièvement ces quatre éléments que Teresa elle avait expliqués. Juste un pour rappel pour ceux qui étaient là, puis pour ceux qui n'étaient pas là, juste de comprendre un peu l'enjeu ou l'introduction dont moi je vais faire l'introspection des écrits de Paul en Actes 19 à 20 qu'on va lire ensemble. Donc, Thérésa a partagé ces quatre éléments. Donc, comment faire des disciples? Tout d'abord, c'est être disciple de Jésus, c'est d'avoir une relation avec lui, d'avoir une intimité avec lui. Où est-ce qu'on commence? On commence dans la famille, dans notre maisonnée avec nos enfants et qu'on soit très intentionnel avec la façon dont nous vivons ensemble. Bien sûr, c'est avec la prière, en communication, en demeurant connecté avec Jésus. Et aussi, ça commence avec nos cercles relationnels. Donc, cette famille, c'est la première partie. Puis là, ensuite, c'est les autres cercles relationnels. Donc, le premier élément, là, c'est une personne, un disciple, c'est une personne qui ressemble de plus en plus à Jésus. Donc, en Jean 15, on peut lire ce que Jean a écrit, que Jésus a dit. Cette idée que demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Fait que c'est cette idée-là, c'est que je ne peux pas faire des disciples, je ne peux pas vivre ma vie avec Jésus sans être connecté intimement avec lui. Là. Donc, j'aime bien ce verset quand Jésus dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis, des fois, personnellement, je peux facilement m'égarer de cet état et penser que je peux faire des choses sans Jésus, mais il dit clairement que vous ne pouvez rien faire sans être connecté avec moi. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième ici, c'est ce qu'on peut dire, c'est la prière. Donc, on poursuit en Jean 15, c'est Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et ce qui est quand même intéressant avec ça, on dit, ben c'est qu'on peut lire ça très vite et dire, ah, mais parfait, là, n'importe quoi que je prie, ça va être m'accorder, là. Mais en fait, la prière aussi, c'est peut-être pas autant pour Dieu que c'est pour nous d'aligner nos pensées et nos orientations, nos désirs avec les pensées, les orientations, les désirs de Dieu, là. Donc, cette idée de prière, c'est vraiment un alignement avec quels sont les désirs de Dieu dans ma vie et dans la vie des gens que je côtoie, là. Donc, cette idée-là que la prière, c'est vraiment en communication et surtout pour notre posture, notre alignement avec les désirs de Dieu. Et Thérésa aussi, elle a partagé plusieurs choses, des éléments pour nous dans notre famille. Et cette idée-là de faire des disciples, ça commence avec la famille, avec les enfants. Et il y a le verset en Deutéronome qu'elle a partagé, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et quand on lit le verset 7, c'est quand même intéressant de dire, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, cette idée-là d'enseignement ou de vivre avec Dieu, c'est pas juste une heure par jour ou juste le dimanche ou en ce moment ici, juste le samedi, juste le jour du sabbat, mais en tout temps et partout. Donc, on vit pleinement avec Dieu en tout temps, à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur de la maison. Quand on se couche, quand on se lève, en tout temps, là. Fait que c'est cette idée-là que c'est en tout temps et partout, là. Et le quatrième élément, c'est cette idée-là, c'est d'être intentionnel. Donc, on a partagé ensemble, nous, là, cette idée de se rencontrer là, le dimanche, de prier ensemble, de lire la Bible ensemble, puisqu'on va ouvrir même ensemble aujourd'hui comme assemblée. On vit la foi et notre relation avec Jésus ensemble, en famille. On développe des traditions, on a des mentors chrétiens, on a des cercles relationnels. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce que notre vie, c'est tissé avec ces éléments-là et on décide, là. Donc, c'est l'idée qu'on doit décider et prendre action pour vraiment être intentionnel, là. Fait que ça, c'est les éléments que Thérésa, elle a partagés. La semaine, ben en fait, en février. Et moi, j'aimerais bien poursuivre avec ce qu'on voit à Paul, qui lui aussi, Il a fait beaucoup de disciples, hein, puis, il y a eu un impact, là. En fait, la plupart des lettres du Nouveau Testament sont écrites par Paul aussi, là. Donc, il y a beaucoup de choses à regarder quand on pense à Paul. Fait que, juste pour, en tout cas, vous mettre en contexte, donc ça, c'est la visite que Thérèse et moi, on a fait. On a visité les sept églises de l'Apocalypse, dont le numéro un, c'est l'église Éphèse, et les six autres églises, en tout cas, vous pourrez voir la carte. Fait qu'on a visité les sites de ces sept églises, et c'est surtout à Éphèse que je veux me concentrer, ou je veux partager ce qui s'est passé avec les anciens de l'église de Paul, et ce qui la dernière fois en fait qu'il a rencontré l'église d'Éphèse. Donc c'est de ça qu'on va réviser et partager aujourd'hui. Donc ça c'est Milet. Donc Milet, c'est une ville juste au sud d'Éphèse, à peu près 4, en fait, 75 à 80 km au sud d'Éphèse. Et on va lire maintenant l'histoire de Paul à Milet, racontée en Actes 20, 16 à 38. Quand Paul appelle les anciens de l'église d'Éphèse de venir à Milet pour lui dire au revoir. Fait que c'est quand même. C'est la fin de l'histoire, la fin de vraiment le ministère de Paul. Et au lieu de, il retourne à Jérusalem, donc il sent qu'il est appelé de retourner à Jérusalem. Et au lieu d'arrêter à Éphèse, donc il est en bateau, au lieu d'arrêter à Éphèse, il dit non, je vais arrêter à Milet, je vais inviter les anciens d'Éphèse de venir me rencontrer à Milet, puis par la suite, je vais retourner à Jérusalem. Sachant, lui, il savait très bien là, que c'était là. C'était son dernière tournée, là, mettons, en Asie mineure, puis il s'en allait à Jérusalem. Il y avait des choses qui l'attendaient. Il était convaincu que c'était la fin de son ministère. Et juste sur ce fait, sur la photo le théâtre, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais juste devant le théâtre, là, vous voyez les arbres, et c'est un peu plat. Mais en fait, il y a 2000 ans maintenant, mais il y a 1000, en tout cas, c'est des années 60, l'année 60. Mais ce que vous voyez comme les arbres, en fait, c'était la rivière. L'eau venait jusqu'au théâtre. Fait qu'on dit que Paul prenait le bateau, mais en fait, l'eau était tout proche. Mais depuis le temps, la rivière, c'est rempli de boue, etc., à cause du ruissellement. Et donc, la mer maintenant est à peu près 14 km, mettons, du théâtre de la ville de Milet. Mais quand Paul écrit ça, quand il est allé au Milet, en fait, il y avait de l'eau qui allait. Il y avait comme plusieurs places pour arriver en bateau tout près du théâtre. Là. Fait que c'est un peu ça quand on lit des choses, on voit les places, on dit, mais comment est-ce qu'il arrivait en bateau? Parce qu'on voit on voit même pas la mer d'ici, mais l'eau venait jusqu'au théâtre. Là. Fait que, et vous voyez en haut, la photo à droite, c'est un des personnes qui nous ont enseigné, en fait, lors de notre tournée en novembre l'an passé. Et justement, c'était quelque chose de vraiment précieux de lire ces versets-là dans Actes 20. Là où les versets ont été vécus, là. Fait que j'espère juste que je vous mette dans le contexte visuel aussi, et on va laisser Dieu nous inspirer avec ces versets. Fait qu'on va lire Actes 20, 16 à 38, et j'ai demandé à Teresa de lire pour nous. On va le lire deux fois. Fait que je vais demander à Teresa si tu peux lire pour nous. Mais avant, moi, j'aimerais bien juste prier brièvement, juste qu'on puisse vraiment être à l'écoute de Dieu, là. Fait que prions avec moi, là. Et après ça, je vais demander à Teresa de lire ces versets-là. Prions. Seigneur, juste merci pour ce moment. Merci qu'on peut venir à toi, puis on peut venir écouter ta parole, écouter les mots que tu as donnés à Paul, tu sais, qu'on puisse vraiment comprendre davantage ce que tu as pour nous. En ce moment, ce matin, Seigneur, ouvre nos cœurs et Seigneur, donne-moi juste les mots, l'inspiration de partager ce qui vient de toi. Et ce qui n'est pas de toi, Seigneur, je te prie juste de l'écarter, qu'on puisse vraiment juste entendre toi et ce que toi tu désires pour nous. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. All right, Teresa, c'est à toi, si tu peux.
D'accord. Bonjour à tous. Alors, Actes 20, 16 à 38. Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie. Il se dépêchait en effet pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit: Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous, depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. Vous savez que, sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons. En appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude, en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église, de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que je voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit: Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et a prié avec eux tous. Tous ont alors fondu en larmes. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient, attristés surtout parce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Puis ils l'ont accompagné jusqu'au bateau.
Merci. Oups. Vous voyez encore l'écran, oui. Fait que, là, on va relire les mêmes versets parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu, en fait, dans ce qu'on vient de lire de Paul qui invite des anciens de l'Église d'Éphèse de venir. Il partage comment elle a été fidèle avec le mandat que Dieu lui a confié. Mais les questions que je vais lire une deuxième fois les mêmes versets, mais et des questions à considérer pendant la lecture, juste quelque chose que Thérèse et moi on a découvert, on a été invités à considérer cette idée-là, comment lire la parole et c'est quoi les questions relativement simples qu'on veut aborder quand on lit la parole ensemble. Donc, les questions à considérer, là, on va lire une deuxième fois, c'est les questions. Donc, qu'est-ce qui est nouveau pour moi? Donc, ça, c'est une question à considérer. Qu'est-ce qui est nouveau pour moi? Qu'est-ce qui m'a surpris? Donc, qu'est-ce que je ne comprenais pas ou qu'est-ce qui m'a surpris? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Qu'est-ce que je vais. Le quatrième élément, c'est qu'est-ce que je vais écouter ou que je vais obéir? Là? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi dans ce que je vois ou je lis? Et est-ce qu'il y a quelque chose aussi, le cinquième élément ou cinquième question, c'est qu'est-ce que je pourrais partager de ce que j'apprends avec ces versets? Fait que je vais poursuivre et je vais lire les versets encore. Fait que porter attention à les différents éléments, et je vais juste partager quelques réflexions à la fin de cette lecture. Donc, on est en Actes 20, 16 à 38, là. Donc, Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie. Il se dépêchait en effet pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit: Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves qui provoquaient pour moi les complots des Juifs. Vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce que vous étiez utile, en public et dans les maisons. En appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'arrivera. Je sais seulement que, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et que je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront les enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frère, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni les habits de personne. Vous savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et de se rappeler des paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit: Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et a prié avec eux tous. Tous ont alors fondu en larmes et se jeté au cou de Paul et l'embrassaient, attristés surtout parce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage, puis l'ont accompagné jusqu'au bateau. Donc, si on regarde dans ces versets, comme j'ai dit, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut sortir en fait de ce texte. Mais ce que je voulais juste arrêter sur le fait des les disciples que Paul a fait à Éphèse pendant le temps qu'il était là. Donc, on peut comprendre, donc, en le verset 35, ça dit, Paul a dit: Je vous ai montré. Donc, comment que Paul a fait des disciples à Éphèse? Et justement, Paul a dit qu'il a passé 3 ans à Éphèse. Donc, l'église d'Éphèse, c'est là où il a passé quand même 3 ans de son temps lorsqu'il était en mission. Mais le 3 ans qu'il a passé là, c'est, il a dit: Je vous ai montré, là. Donc, j'ai parlé je vous ai rappelé des paroles du Seigneur Jésus. Donc, ça, c'est en verset 35. Et où est-ce qu'il a fait les disciples? Physiquement, il a dit en public et dans les maisons. C'était quoi sa mission? Sa mission, en faisant les disciples, c'était pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc, de faire les disciples, c'est ça qu'il avait fait pendant ces 3 ans qu'il a passé à Éphèse. Ce que Teresa et moi, on a vraiment appris, puis on a pu comme constater physiquement quand on a visité la ville d'Éphèse, il y avait pas de bâtiment d'église. L'église était les maisons. Donc, il y avait 8, 10, 12, 15 personnes qui se rencontraient dans les maisons. Et donc, ça, c'était l'église. Donc, quand même des lettres, puis je pense que Teresa a partagé ça en janvier, l'idée de ces lettres que Jean a écrit aux églises, quand ça dit la lettre qui a été écrite à l'église d'Éphèse. Mais en fait, l'église d'Éphèse, c'était beaucoup de petites maisons, regroupement de personnes. Donc, la lettre probablement se passait d'une maison à l'autre. Donc, ça, c'était l'église d'Éphèse. Parce que moi, je sais que dans ma compréhension, en fait, de notre contexte d'aujourd'hui, on pense à l'église, mais là, et où l'église? Ah, c'est sur le boulevard Gouin ou c'est sur le boulevard Saint-Jean, mais là où se trouve l'église. Mais en fait, l'église, dans le temps de Paul, il n'y avait pas de bâtiment, donc l'église, c'est des gens, des regroupements de gens qui se rencontraient dans les maisons. Donc, quand il a dit qu'il a rencontré, il a fait des disciples en public et dans les maisons, c'était avec, il vivait avec les gens, il était présent autour de la table, en travaillant, en mangeant, en marchant, à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur de la maison. Fait que cette idée-là, c'est vraiment frappant, en fait, dans cette idée de comprendre le contexte de Paul. Et ce qu'on peut apprendre de ça aussi, de dire, mais voilà, est-ce qu'on vient à l'église pour être sauvé? Est-ce qu'on vient à l'église comme le bâtiment pour être sauvé? Est-ce qu'on vient à l'église pour rencontrer Jésus? Mais en fait, dans le temps de Paul, il y avait pas de bâtiment, donc on rencontrait pas Jésus dans un bâtiment, on rencontrait ça en église, donc dans ces regroupements dans les maisons, là. Donc, c'est quelque chose je crois que c'est pour nous aussi comme église d'Oasis, de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, là? Donc, les rencontres dans les maisons, les regroupements de 4, 5, 6, 8 personnes, c'est quand même très important de là, découvrir davantage comment faire des disciples et inviter des gens à rencontrer et connaître et expérimenter de la grâce, la bonne nouvelle, la grâce de Dieu, là. C'est dans ces regroupements-là de petits groupes. Et une autre chose que j'aimerais juste souligner, ce qui est quand même très intéressant, c'est même très frappant pour moi, quand Paul a appelé les anciens, mais deux choses. Paul a appelé des anciens d'Éphèse de venir à Milet. Donc, c'était à peu près à 75-80 km. Donc, c'est quand même, c'est pas juste, OK, prends tes souliers, viens-t'en, là. C'est quand même une bonne marche, là. 80 km de marcher, il fallait se préparer, là. Donc, quand il a appelé les anciens, il disait, OK, parfait, là, c'est quelques jours, même peut-être une semaine c'est plusieurs jours de marche pour arriver, puis plusieurs jours pour retourner. Donc, il a appelé les anciens d'Éphèse de venir à Milet. Et aussi, on peut dire, mais pourquoi est-ce qu'il s'est pas juste arrêté Éphèse pour rencontrer les gens directement à Éphèse? Parce qu'il aurait pu arriver là en bateau. Mais je pense que, puis ça, c'est quelque chose qu'on a discuté même ensemble dans notre groupe. Peut-être le fait que Paul, il voulait pas arriver à Éphèse comme l'évêque ou celui qui était responsable pour l'église d'Éphèse. Donc, d'arriver comme le roi qui revient à Éphèse, mais plutôt, il a dit, viens à Milet, là, fait que venez me voir, moi j'ai autre chose à faire, vous autres, vous avez des choses à faire, venez, on va se rencontrer en chemin. Fait que cette idée-là OK, pourquoi est-ce qu'il a choisi de venir à Milet, puis inviter les anciens d'Église de venir à Milet, en fait ça parle un peu à la posture ou l'attitude de Paul là, dans ce qui est la mission que Dieu lui avait confiée à lui aussi, là, donc. La deuxième partie de cette question, c'est les anciens d'Église. C'est qui les anciens? Qui sont ces anciens? En fait, si Paul a fait des disciples à Éphèse pendant 3 ans, les anciens d'Éphèse, c'était des chrétiens, des croyants depuis 3 ans. Tu sais, ça faisait depuis 3 ans qu'ils croyaient, qu'ils ont accepté la bonne nouvelle, la grâce de Dieu, qu'ils ont accepté Jésus, puis ils ont décidé de suivre Jésus. Fait. Des fois, on pense à anciens, puis on dit, mais c'est des vieux, là, comme peut-être moi ou d'autres dans l'Église, on dit, mais ça, c'est les anciens parce qu'ils sont vieux, là. Mais ce n'est pas nécessairement l'idée directe, là, d'ancien, ça ne veut pas dire vieux, mais un ancien, à ce moment-là, probablement, je ne suis pas historien, mais ce qu'on a compris en étudiant là, ces versets, puis avec l'étude qu'on a faite quand on était là, les anciens, probablement, il y en avait plusieurs dans le groupe qui se faisaient juste 3 ans qui suivaient Jésus. Fait que cette idée-là de relâcher, d'inviter des gens d'accepter Jésus, de marcher avec eux, de faire des disciples, puis là, de les relâcher après un certain temps. Mais 3 ans, c'est quand même assez vite. En tout cas, peut-être des fois, on dit, mais il faut être bien formé, etc. En tout cas, ces versets-là nous montrent que. Peut-être que c'est bon d'encourager les disciples à faire des disciples et plutôt que de dire, mais ah, il faut étudier davantage. Fait que cette idée, Paul appelle les anciens à Éphèse. Comme j'ai dit, les anciens, que peut-être ça faisait juste 3 ans qu'ils suivaient Jésus, il a dit à ces anciens, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous êtes maintenant responsable, je vous confie la responsabilité de l'Église. Donc, ce n'est pas moi qui est responsable pour l'Église, vous êtes responsable pour l'Église d'Éphèse. Fait que c'est ça. Et je dis, moi, vous ne me verrez plus là. Vous ne me verrez plus parce que je m'en vais à Jérusalem et il s'attendait qu'il ne revienne pas. Fait que cette idée-là, il a dit, voilà, vous êtes responsable, Dieu va vous guider, vous êtes responsable maintenant comme de l'Église. Et donc, Paul, il passe le bâton à ses anciens à ce moment-là. Et je veux juste comme terminer au résumé avec cette idée-là que c'est là, ici, donc on peut imaginer que Paul est ici dans ce contexte, dans ce théâtre ou dans ce coin, dans un coin pas loin ici, puis il confie la mission, la responsabilité de l'Église à Éphèse à ses anciens. Donc ses anciens qui sont venus à Milet, il dit, voilà, vous avez entendu de moi la grâce, tous les enseignements que Dieu m'a donnés, je vous ai transmis. Ouvertement, clairement, vous êtes maintenant responsable, allez. Puis là, lui, il descend, il prend le bateau, il rentre à Jérusalem, puis les anciens de l'église d'Éphèse retournent à Éphèse et justement forment d'autres disciples, soit ils sont maintenant responsables pour l'église d'Éphèse et maintenant ils vont former d'autres disciples. Et peut-être j'ai le temps de. Juste de. Non, je ne vais pas raconter ça, mais je vais peut-être revenir là-dessus après. Mais cette idée-là de former des disciples, donc juste un petit rappel là, que c'est peut-être pas comme ça qu'on forme les disciples en classe, en étudiant, mais c'est vraiment cette idée. Oui, bien sûr, il y a une étude, il y a un aspect d'étudier, mais c'est probablement pas Jésus dans une classe avec comme ça que. On conforme les disciples. Attends, c'est plutôt ensemble comme ça là, qu'on fait des disciples. Donc, on peut imaginer que Paul a fait des disciples avant qu'il y ait des bâtiments, donc avant qu'il y avait une église physique, un endroit physique, mais c'était dans les maisons. Donc, on peut voir dans la photo ici, c'est autour de la table, autour des. En fait, c'est même des chips, c'est quelque chose à manger autour de la table. On étudie la Bible, on prie, on s'encourage mutuellement, mais c'est vraiment cette idée-là de venir rencontrer Jésus d'une façon relationnelle, d'une façon intentionnelle. Donc, c'est comme ça que Paul a fait les disciples. Et donc, cette idée-là pour nous, comment est-ce qu'on fait des disciples? Est-ce qu'on veut les inviter à suivre un cours ou est-ce qu'on veut vivre avec les gens, cheminer avec les gens, poser des questions, réfléchir, aimer, pleurer. Donc cette idée-là de comment est-ce qu'on fait des disciples. Donc, c'est clair que Jésus était très relationnel et très intentionnel. Paul aussi, il a été très intentionnel et très relationnel. Donc, je pense que c'est à nous aussi d'être très intentionnel et très relationnel dans ce que nous on fait, comment est-ce qu'on forme les disciples autour de nous. J'aimerais juste peut-être terminer avec deux versets. Puis ça, c'est un verset que mon fils Mathieu, il aime beaucoup. C'est « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc ça, c'est Jésus qui tient à la porte de nos cœurs. Il est là, il dit « Hey, je suis là. » T'as juste à ouvrir la porte et je viendrai souper avec toi et toi avec moi. Et cette idée de souper, de manger, de vivre avec, c'est vraiment cette idée d'hospitalité, de vie entière. Et je pense que c'est vraiment une belle invitation. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il y a un tableau qui a été peint une image de Jésus qui frappe à la porte. Puis ça, si on regarde bien cette image, la porte, il n'y a pas de poignée de porte à l'extérieur de la porte. Il y a juste un poignée de porte à l'intérieur. Donc, Jésus tient la porte et il frappe, mais il ne va pas ouvrir la porte pour toi, là. Donc, c'est à nous d'ouvrir la porte de l'intérieur. On ouvre et on invite Jésus de rentrer chez moi, dans ma vie, et cette idée de souper avec lui, avec moi. Et ce verset-là, c'est connecté avec ce qu'on a. Peter Ronenfeld, c'est lui qui nous a. C'était notre. Un historien, pasteur, il a écrit plusieurs livres et ce que lui, il dit, en fait, tout ce qu'on a appris pendant notre, beaucoup de choses qu'on a appris à travers notre étude et notre voyage, c'est si on peut manger, on peut faire des disciples. Donc, on connecte ça avec le verset en Apocalypse. Donc, Jésus nous invite, c'est d'ouvrir la porte, puis il viendra souper avec nous, il viendra manger. Mais cette idée-là, si on mange, on peut faire des disciples. Fait que cette idée d'inviter les gens dans nos maisons et aussi de se faire inviter dans la vie des autres. Cette idée de vivre avec les gens dans les vies, c'est pas une chose qu'on fait, mais en fait, c'est une façon dont nous vivons ensemble. Fait que cette idée-là, je pense qu'on est tous capables de manger. Donc, on est tous capables de faire les disciples. Donc, c'est ça un peu le message qui est simple, mais c'est compliqué, mais c'est simple aussi, là. Fait que si vous êtes d'accord, que vous êtes capable de manger, vous êtes capable de faire les disciples. Donc, je termine avec le verset Matthieu 28, 19, que Jésus dit, Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et cette idée-là aussi d'aller. C'est pas d'aller, bien sûr que Mélodie, elle est allée outre-mer. Moi, je pars dans quelques semaines, je vais au Belize. Il y a des gens qui vont loin. Mais en fait, cette aller-là, c'est en fait, on peut le traduire au fur et à mesure que vous avancez, là où vous marchez, là, donc au magasin, à l'école, au travail, en famille, avec les voisins. Donc, aller, ça ne veut pas nécessairement dire aller très loin. Bien sûr que c'est bon de. En fait, partout, là, toutes les nations, ça veut dire qu'il faut aller dans toutes les nations. Mais toutes les nations, c'est peut-être notre voisin, celui qui nous sert à Maxi, quelqu'un avec qui on est assis à côté à l'école. Donc, cette idée-là de comment est-ce qu'on fait les disciples, on doit aller à mesure qu'on avance, là où on se trouve, qu'on parle, on mange, on écoute, on invite, on est intentionnel. Et on est missionnel avec ce qu'on fait et la façon dont nous vivons. Fait que, allez, Église Oasis, faites de toutes les nations les disciples. Fait que, je vais demander à. J'avais nommé Kai avant de prier. En fait, j'avais demandé à Zosha de prier pour nous. Puis elle dit non, 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 Kai va prier, là. Fait que, je ne sais pas si vous avez décidé qui va prier, mais je pense que Kai, tu te portes volontaire de prier pour nous, là, right? C'est bon. Merci de dire oui.
Parfait. Oui, c'est parfait. Prions, tout le monde. Merci, Jésus, pour ouais, ce message, ce temps-là, pour que nous pouvons écouter le message que tu as donné à David aujourd'hui. Nous te remercions pour la simplicité de comment nous pouvons faire les disciples dans notre vie. Oui, Dieu, juste enlever de nous les barrières de complexité envers faire les disciples et forger les relations missionnaires dans nos vies. Juste les mots que Paul avait dit, que ça donnait lui un sentiment de responsabilité de partager tout le conseil de Dieu. Les disciples d'Éphèse et que lui, il a considéré que c'était juste une responsabilité qu'il devrait juste partager tout sans garder rien de les disciples qui avaient fait dans les villes et les villages de l'Asie mineure. Et juste Dieu, donnez-nous aussi ce sentiment de responsabilité de partager tout le conseil de Dieu avec nos amis, nos relations, nos familles, de manière juste urgente et avec de l'amour et aussi juste simplement quand on fait oui, juste les rencontres, les dîners quoi que ce soit, juste donnez-nous l'opportunité de d'être missionnel avec nos relations aussi. Oui, guide-nous, Saint-Esprit, et aide-nous à aller vers les nations qui sont juste à côté de nous, nos voisins, mais aussi juste autour de la monde, quand on fait même les missions envers les moins atteintes nations du monde. Oui, nous prions dans le nom de Jésus. Amen.
Merci beaucoup tout le monde. Merci de m'avoir écouté et que ce soit, ouais, que vous soyez bénis.